plume sur RCN, présenté par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Simone Desavel pour son livre « René Desavel, un chercheur infatigable » publié en auto-édition et Catherine Rouillère-Durand pour son ouvrage « Elisabeth de Ranfin » publié chez Lire à l'Est, le Pythagore édition. Avec nous également John Bullitt qui nous fera la lecture de sa nouvelle « Satan bouche à un groin ». Bonjour à vous trois et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Mona.
Nous allons commencer avec Simone Desavel. Alors Simone, ce livre « René Desavel, un chercheur infatigable » est un hommage à votre père décédé en 1952. Alors pourquoi ce livre et pourquoi maintenant ?
Alors, à un moment, nous nous sommes trouvés dans une période de confinement où on était astreint à rester entre quatre murs. Et c'était assez perturbant de ne pas pouvoir courir dans tous les sens comme j'en avais l'habitude. Et puis, je me suis dit, c'est le moment de ranger des placards. Je stocke d'une façon anarchique beaucoup de choses. Et j'avais des anciennes affaires qui appartenaient donc à mon père. Et en triant tout cela, j'ai trouvé une série de 9 cahiers sur les 10 qui étaient numérotés. Où j'ai trouvé qu'il leur racontait la guerre de 40 jour par jour, ce qu'il avait vécu entre le moment où il a été mobilisé sur la ligne Maginot et le moment où il a été fait prisonnier. Et après, il est parti en camp, en Auflag, en Allemagne. Mmh.
Alors, votre ouvrage est scindé en 2 parties. Alors, donc, la première partie, c'est...
Donc, au début, mon père, qui n'est plus connu aujourd'hui, était un archéologue de renom. J'ai trouvé dans la revue, je ne sais plus si c'est Archéologia, il me semble que c'était Archéologia, citer les 3 plus grands préhistoriens de Lorraine, il y avait Blecher, Beaupré et Desavel. Je dis là, il a découvert les premiers sites de paléolithique en Lorraine, dans le coin des Plis. Bon, c'était un enseignant, c'était un cherche-tout, un trouve-tout, un s'intéresse à tout. Enfin bon, il était apiculteur, il a fait des fouilles. On dit souvent des gens qu'ils ont des squelettes dans leur placard quand ils ont des affaires louches qui ne sont pas tout à fait à diffuser à tout le monde. Chez nous, c'était concret, quoi. Il y avait un placard dans lequel il y avait un crâne de guerrier franc qui avait pris un coup de Francisque, des ossements incinérés du 1er siècle, quelques os de mammouth et autres fantaisies du même genre. Enfin, il y avait de quoi, il y a eu de quoi faire une exposition d'ailleurs on dirait collège aujourd'hui. C'était le cours complémentaire à Briey. Mmh. Donc, dans une très grande salle de classe, toutes les tables étaient entièrement couvertes de squelettes, de crânes, d'objets, de parures, de vases, enfin d'amphores, etc.
Et ces objets ont malheureusement disparu, enfin parti.
Certains objets ont été volés par les Allemands pendant la guerre dans la maison de mes grands-parents. Mmh. Et puis d'autres ont été détruits par les Américains qui se sont amusés à piétiner des affaires, enfin bon. Et puis ce qui restait, quand mon père est décédé, nous étions en logement de fonction, il fallait s'en aller, laisser la place au suivant. Donc nous avons été obligés de sacrifier énormément de choses de ce qui avait été ces découvertes. Mes grands-parents ne voulaient pas se charger des affaires, ils avaient peur que le grenier leur tombe sur la tête. C'est vrai qu'il y avait des caisses complètes de silex et de quartzite, donc il y avait du poids. Ma mère a donné au musée de Metz ses recherches, donc toutes les pièces étaient numérotées, étiquetées, enfin tout est... Bon, le problème, c'est que ça a été donné en 1953, et ça n'a jamais été exposé depuis. Mmh. Les musées ont beaucoup de choses dans leurs réserves, ils n'ont pas toujours la possibilité de tout présenter.
Mmh. Votre père était donc un homme très très éclectique, puisque vous avez parlé de quelques-unes de ses passions, dont l'archéologie en priorité, bien sûr. Il a écrit aussi une méthode scolaire d'enseignement du dessin.
Mon grand-père avait travaillé à une méthode scolaire d'enseignement du dessin. Mon père l'avait écrit ça, oui.
Oui. Il était apiculteur, collectionneur de papillons exotiques.
Voilà.
Et auteur de contes.
Il a écrit des contes.
Qui n'ont jamais été publiés.
Et ils n'ont jamais été publiés, mais je pense faire un tout petit tirage pour le diffuser aux neveux, nièces et enfants et petits-enfants, simplement pour qu'il en reste quelque chose.
Oui, oui bien sûr. Vous avez apprécié de les lire.
Oui.
Oui. Alors, dans la seconde partie, vous publiez « Ma guerre, 1939-1940 », le journal de votre père qui a été écrit à Nancy quand il fut fait prisonnier en attente d'être transféré dans un no-flag, hein, c'est ça. Vous avez retrouvé toutes ces archives, sauf un carnet, c'est ça?
Il y a un carnet qui racontait quelque chose où il avait croisé ses parents pendant la guerre, au moment où c'était en pleine débâcle, où l'armée allait complètement... Se sauver en essayant de ne pas être capturé. Ses parents qui auraient pu le cacher, mais qui n'ont pas voulu parce qu'ils ont eu peur d'être pris. Donc, ce cahier-là, c'est curieux, mon grand-père l'a fait disparaître.
Ah, d'accord. Bon. Alors, à lire le journal de votre père, on comprend très vite que cette guerre était très mal préparée, contrairement à l'Allemagne.
Catastrophe. Hein. De toute façon, oui. On aurait cru que c'était se tirer une balle dans le pied en continu. Quoi. Les hommes de troupes, ils avaient 60 km à faire. Ils font ça à pied, hein. Il n'y a pas de problème. Il y a des camions, mais on ne va quand même pas utiliser les camions pour ces gens-là. Hein. Donc, il y a de l'essence en quantité. Eh ben, on va mettre le feu au dépôt d'essence pour ne pas le donner à l'ennemi. Mais on va laisser donc les gars faire 60 km de marche à pied pour venir en poste face à l'ennemi qui était là depuis un moment et qui était parfaitement reposé. Quoi.
Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on oublie quand même un peu de dire, c'est que c'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. Ce n'est pas l'Allemagne qui a déclaré. Bon, c'est le jeu des alliances, bien sûr, mais c'est nous qui avons déclaré la guerre. Alors, on aurait pu penser que
pour
l'armée
une bonne
était
raison.
Prête.
Pour une bonne raison.
Oui. Vous voulez développer ?
Non.
Alors, c'était un homme aussi à fort caractère. Il n'hésite pas à raconter l'incurie des chefs militaires.
Ah oui.
C'est affreux. Ils veulent tous. Alors, il y en a un qui prend le commandement. Après, c'est un autre. Ils changent tout. C'est
ordre, contre-ordre, sur-contre-ordre. Chacun qui arrivait décidait que tout ce que les autres avaient fait était nul. Donc, il fallait tout recommencer. Installez-vous ici, creusez là, non, l'autre, non, vous faites ça à 10 mètres de distance, plantez des pommes de terre dans la partie, non pas protégée par la ligne Maginot, mais la partie extérieure, quelles pommes de terre ne seront jamais récoltées, alors que les soldats entrent à une période où ils avaient faim,
bien sûr.
Tout, et puis vraiment une quantité, je sais qu'il avait noté le nombre de fois où ils avaient reçu des ordres et tout, et ils devaient faire appliquer à chaque fois. Mais enfin, c'était
et puis c'était
la folie.
Et puis c'était pas possible, parce qu'il les faisait déménager en pleine nuit en disant rendez-vous à 2h du matin à 60 km plus loin, c'est pas possible.
Et il leur disait à 1h30, prévenez tous vos hommes, empaquetez tout, et vous serez à 40 km dans une demi-heure, quoi, à pied.
Et oui. Alors qu'ils avaient déjà fait 60 km la veille. Quoi.
Voilà,
affolant. Hein. Alors votre père écrit « Oui, la civilisation n'est qu'un vernis brillant. Celui qui y croit se leurre. L'homme est un pauvre animal, mu par ses instincts comme les autres, comme tous les autres. Et ses progrès, même les plus extraordinaires, progrès des sciences, ne sont que de la perfection de surface. Au fond de lui-même, l'homme est resté et restera toujours imperfectible et vain. Et c'est son orgueil originel seul qui le porte à croire sans cesse le contraire et à jouer au civilisé. » Fin de citation. Cette phrase écrite en 1940 est toujours d'actualité.
Ah oui.
Il était visionnaire.
Oui.
En plus de ces...
Bon, je peux dire peu de choses de lui parce que j'étais vraiment toute petite. Bon, j'avais 4 ans quand il est tombé malade. J'étais son amour, sa chérie. Bon, je me souviens de peu de choses de l'époque. Si ce n'est de réussir à faire des gugus sur le tableau de sa salle de cours avec une craie qui m'a peut-être valu ma profession d'enseignante après, quoi.
Oui, apparemment, oui, vous avez un peu suivi les traces du papa. Oui. Qu'est-ce que je veux dire, il est décédé des suites de sa... Des suites de captivité,
c'est-à-dire qu'il avait des problèmes de santé qui ont été soignés avec exactement l'inverse de ce qu'il aurait fallu. On lui a donné les médicaments qui n'ont fait que aggraver les choses. Il est parti... nous étions en vacances donc chez ses parents à Loisy près de Pont-à-Mousson. Mon grand-père exigeait qu'on apporte ce qu'il fallait pour manger, donc il fallait aller à la pêche pour pêcher les poissons pour avoir de quoi faire pour le repas. Donc il est parti tout content d'aller à la pêche parce que c'est quelque chose qu'il adorait, la pêche, la chasse, tout ce qui était nature. Et tout à coup, il s'est retrouvé aveugle tout seul au bord de l'eau. Donc, il est revenu, en gros, à quatre pattes en tâtant le terrain pour essayer de se retrouver, pour pouvoir rentrer. Et en fait, il y avait un problème au niveau du cerveau. Les médecins lui ont dit, il a vu plusieurs spécialistes et tout ça. On dit, il aurait mieux valu que vous ayez un cancer. On aurait peut-être pu faire quelque chose.
Oui. Oui, donc c'est triste, hein, c'est vrai. Alors, comme votre père, vous êtes une femme éclectique, écrivaine, poétesse, peintre et photographe. Vous êtes également présidente de l'Académie Léon Tonnelier. C'est dans vos gènes d'être intéressée par de nombreuses activités ou vous avez voulu suivre un peu les traces de votre père ?
Ah non, tout est à grignoter, à consommer. Je ne sais pas, j'ai toujours aimé faire, essayer, chercher...
Et vous avez une prédilection pour une activité ou l'autre ?
Mais même pas, parce que j'avais une horreur d'une chose quand j'étais en classe, c'était de la couture. Quelques années après, partant d'une passion, je collectionne des dentelles, des broderies et des vêtements anciens.
Oui, j'ai oublié de dire ça.
J'ai voulu faire des copies de coiffe lorraine. Et donc, je me suis lancée à faire de la couture pour des groupes folkloriques de la région. Donc, j'ai fait la moitié des coiffes, des halettes que les groupes portent, que ce soit en Moselle, dans les Vosges ou en Meurthe-et-Moselle. Enfin, vraiment, alors que je détestais la couture.
C'est drôle. Alors, avant de nous parler de l'Académie Léon Tonnelier, vous voulez bien nous faire la lecture d'un de vos contes ?
Oui, je vais vous lire le démarrage d'un petit conte, les contes de la forêt de haies. Et les contes sont présentés par un curieux personnage, voilà, pour vous mettre en appétit. Lorsque l'on est un très très vieil arbre, que l'on vit depuis toujours dans les bois, on voit tout, on sait tout de ce qui se passe. Notre belle forêt de haies est immense, extraordinaire. Riche de plantes, d'animaux, d'êtres souvent bien communs, ou d'autres, parfois, exceptionnels. Ceux-ci sont si mystérieux qu'ils vivent cachés afin de préserver leur tranquillité. Et moi, je me présente. Je suis un vétéran. Je me tiens là, immobile, dressant mon tronc avec fierté, levant haut mes branches, toujours vaillant malgré mon grand âge. Mes amis, les arbres et les buissons m'ont surnommé la mémoire de la forêt. Ce n'est pas parce que l'on a passé toute sa vie enracinée au même endroit, au bord d'un chemin forestier, que l'on ne connaît rien. Ne me prenez tout de même pas pour un ignorant. Ah, si vous saviez. J'ai germé, puis poussé au milieu d'un parterre de touffes d'aspérules odorantes, tout au bord d'un sentier qui sentait bon la menthe et la marjolaine. Tout autour de moi, des hêtres dressaient leurs magnifiques houppes. C'est là que les promeneurs, les flâneurs se laissent aller et bavardent en passant. La plupart d'entre eux ne me remarquent même pas. Pour eux, je suis juste un élément du décor, rien d'autre. Ils se sentent bien, en paix, endormis par les chants des oiseaux. Ils ne se méfient pas, ils ne perçoivent même pas ma présence. Je suis là, immobile, mais pas sourd. Et oui, j'entends tout, je retiens tout. Et cela depuis maintenant des siècles. Que dis-je, des siècles ? Mieux, presque des millénaires. Les créatures mystérieuses de la forêt viennent s'asseoir contre mon tronc pour leur réunion mensuelle. C'est à ce moment que je me laisse bercer par leurs confidences et leurs chants. Et toutes ces histoires souvent étranges que les promeneurs échangent entre eux, celles aussi que les petits êtres se racontent au cours des nuits de pleine lune, je les ai écoutées, souvent plusieurs fois, et retenues, car j'ai une excellente mémoire. Et comme Simone vient me voir souvent, qu'elle est attentive à tout ce que je veux bien lui répéter, je l'ai chargée d'une mission. Elle doit mettre sur papier toutes ces anecdotes étonnantes. Par contre, certains secrets extraordinaires, même si vous mourrez d'envie de les connaître, je ne vous les divulguerai pas. Ils resteront mystérieux. Il y en a tellement. Si je commençais à vous les dévoiler, nous en aurions pour des siècles. Mais là, dans ce livre, c'est pas pour les oreilles indiscrètes des hommes. Les récits que je me sens le droit de partager, les voici enfin livrés pour vous. Vous apprendrez l'histoire de Nuage, la jeune sylphide, mais aussi celle du magicien de la forêt bleue, des 7 cadeaux mystérieux, de la petite feuille qui avait la bougeotte, du courageux petit Michou, d'une renarde pas comme les autres, d'un oiseau voleur et d'une rencontre extraordinaire au bord de la fontaine. Amis lecteurs, je vous laisse les découvrir. Quant aux autres secrets qui m'ont été confiés, désolé, je ne vais tout de même pas me risquer à vous les dévoiler, à moins que, peut-être, une autre fois.
Merci Simone, vous nous avez vraiment donné envie de lire ces fameux contes. Les histoires de trésors, de mystères, tout ça. C'est bien.
Alors c'est marrant parce qu'il y a une émission qui est passée il y a 2 jours sur la 5, sur les arbres justement. Mmh. Où ils sont en train de découvrir qu'il y a des choses extraordinaires qui sont faites, que l'arbre est aussi grand en haut qu'en dessous.
Qu'ils ont un réseau.
Qu'ils ont un réseau, qu'ils sont alimentés, qu'ils discutent avec les champignons, etc.
Et, oui, oui.
Oui, c'était prodigieux cette
chose. Oui, j'avais lu
un encourage à la regarder en podcast.
Oui, il y avait un livre aussi qui était écrit à ce sujet. Alors, merci Simone. Donc, maintenant, vous allez nous parler de l'Académie Léon Tonnelier. Mais déjà, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas. Qui était Léon Tonnelier ?
Voilà. Léon Tonnelier est un poète de Nancéien qui est décédé en 1937. Léon n'avait qu'un fils qui est mort à la guerre de 14. Donc, il n'a pas de descendants. C'était quelqu'un qui était ami avec tous les créateurs de l'école de Nancy. Il était copain avec les étudiants, il a eu plein de contacts avec toutes sortes de personnes. C'était quelqu'un de très chaleureux et on a du mal de trouver des documents à son sujet. Mmh. C'était dommage parce que c'est vraiment un poète magnifique. Quoi. Il écrivait des textes superbes, il aimait beaucoup les dames. Mais chut. On perd complètement, déjà quand je vois avec mon père qui a disparu il y a longtemps, où il ne reste presque plus grand-chose dans la mémoire des gens, Léon Tonnelier, oui, ça ne dit rien du tout. Et la présidente d'une académie, donc Irène Génin-Moine, a décidé, parce qu'elle s'appelait Haute Académie Littéraire, enfin quelque chose, un titre un peu...
Pompeux,
ronflant... Elle a décidé de personnaliser un peu cette association en lui donnant le nom donc, de ce poète. Donc c'est Académie Léon Tonnelier. D'ailleurs, si vous avez envie de voir qu'est-ce que l'Académie Léon Tonnelier, allez voir academieleontonnelier.fr et vous aurez notre site.
Oui.
Voilà. Et donc Léon Tonnelier a rédigé, il a produit plusieurs petits fascicules de ses poèmes. Et vraiment, de temps en temps, on a un contact avec quelqu'un qui nous dit « Mais j'ai trouvé une photo de Léon Tonnelier avec pourtant la faluche avec les étudiants, des choses comme ça. » Donc, on essaye de collecter ce qu'on peut pour garder la mémoire de cet homme.
Mmh. Donc, j'ai trouvé l'autre jour une poésie sur la tarte aux mirabelles,
oui,
de Léon Tonnelier, que j'avais partagée. Alors là, ça a fait l'unanimité, mais voilà, donc il est encore vivant quand même parmi les Nancéens.
Oui, et avec le petit gamin qui est les yeux pleins d'étincelles devant la tarte aux mirabelles. Oui, c'est vrai qu'il a une très très belle écriture.
Donc pour les curieux, allez voir sur internet, vous trouverez facilement. Merci beaucoup. Alors nous revenons dans quelques instants après Une île de Jacques Brel.
Une île au large de l'espoir, où les hommes n'auraient pas peur, et douce et calme comme ton miroir. Une île claire comme un matin de Pâques, offrant l'océan longueur d'une sirène à chaque vague. Oh, viens mon amour, là-bas ne serait point ces fous qui nous disent d'être sages ou que 20 ans est le bel âge. Voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer. Une île au large de l'amour, posée sur l'autel de la mer, satin couché sur le velours. Une île chaude comme la tendresse, espérante comme un désert, qu'un nuage de pluie caresse. Oh, viens mon amour, là-bas ne seraient point ces fous qui nous cachent les longues plages. Viens mon amour, fuyons l'orage, voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer. Une île, et qu'il nous reste à bâtir, mais qui donc pourrait retenir les rêves que l'on rêve à deux. Une île, voici qu'une île est en part, et qui sommeillait en nos yeux depuis les portes de l'enfance. Oh, viens, viens mon amour, car c'est là-bas que tout commence. Je crois à la dernière chance et tu es celle que je veux. Voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer. Une île.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Simone Desavelles, venue nous présenter son livre « René Desavelles, un chercheur infatigable » publié en auto-édition, et Catherine Rouillère-Durand, son ouvrage « Elisabeth de Renfin » publié chez Lire à l'Est, le Pythagore édition. Alors avant de parler du livre de Catherine Rouillère-Durand, Jeanne Bulit va nous faire la lecture de sa nouvelle « Ça t'embouche un groin ».
Oui, ça t'embouche un groin. C'est une nouvelle assez courte, cette fois-ci encore sur ma famille. Sauvegarder un cochon. Mon fils voulait sauvegarder un cochon en l'adoptant, en le parrainant.
un cochon promis à l'abattoir. Ah, noble sentiment que de sauver son prochain, mais un cochon, pensais-je, embarrassé quand même. Je sais comment l'histoire se termine d'habitude, avec son chat, avec son poisson rouge, avec son cochon d'Inde, ou encore avec sa souris qui m'avait bouffé tous les fils électriques de ma chaîne stéréo. Oh non, 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 pitié, pas un cochon, je suis sûr que c'est moi qui vais le récupérer au final. Il m'avait promis la main sur le cœur. Non, ne t'inquiète pas mon petit papa, no stress, je gère. Je vais le faire garder par une association qui s'appelle « Ça t'embouche un groin ». Ouais, c'est vrai que c'était rigolo, rien que le nom de la sauce, mais bon, hein, un cochon, ça porte quand même son nom, hein, un cochon. Et cela même si autrefois ma mère me disait souvent que j'étais un de ces cochons car je ne me lavais pas les mains avant de manger. Mais je ne voudrais pas encore aujourd'hui lui donner du groin à moudre. Non, fiston, il n'en est pas question. Mais papa, je me sens si seul depuis que maman est partie. Je déprime. Quelque part, ça me ferait du bien. Non, non et non. Moi vivant, tu n'auras jamais de cochon. Un mois plus tard, le cochon était là. L'association en déficit avait dû fermer ses portes et chaque propriétaire bienfaiteur récupérait son animal. Ah, mon fils faisant de brillantes études à Paris, mais dans un petit studio au 6e sans ascenseur dans le 15e, alors que moi j'étais dans notre grande maison en province. Alors il me dit, tu comprends, blablabla, tu es d'accord, blablabla, il y a beaucoup plus de place chez toi. En résumé, assura-t-il, chez toi papounet, oh, il sera vraiment, vraiment bien mieux. J'en étais sûr, c'est moi qui allais le récupérer. Oh papa, non, non et non. Et il a un nom, au moins, cet animal. Oui, c'est Doudou. Oh, Doudou, Doudou. Et pourquoi pas Groin-Groin pendant qu'on y est? Oh, oui, oui, oui. Groin-Groin, c'est beaucoup mieux. Va pour Groin-Groin. Oh, au secours, pitié, je me retrouve avec Groin-Groin. Je n'y connais rien en cochon. Mais regarde, mon papounet chéri. Je t'ai amené justement un bouquin qui va bien t'aider. Il s'appelle « Tout savoir sur la nature, les cochons pour les nuls ». Avec ça, ce sera facile pour toi. C'est un beau cadeau, hein, papounet. Avec toi et ton cochon, les diplés d'Égypte, c'est de la rigolade, fils. Bon, je vais y aller, papa, hein, car j'ai encore du boulot. Je suis pas en retraite comme toi. J'ai mis Groin-Groin dans le garage. Tu n'oublieras pas de m'envoyer des photos de lui, hein. Quand tu le nourris, quand tu le brosses, quand tu le laves. Tiens, aussi, quand il se roule dans la paille, hein. Et puis quand... Oui, 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 et... Quand je le découperai en tranches aussi, compte sur moi, je t'en enverrai des photos, hein, des photos de jambon, des photos de Gwen Delard, des photos de l'usine de chez Herta, hein, plein de photos de ton Groin-Groin. Allez, disparais, disparais, laisse-moi seul, face à mon destin. Elle vola partie, me laissant avec mon animal de compagnie de 123 kilos. Je descends les marches de l'escalier, conduisant à mon garage avec beaucoup de prudence. Ça y est, je pousse la porte, je suis face à la bête. Il émet des sons tonitruants en me voyant. Peut-être une marque d'affection ou même de reconnaissance. Après tout, les cochons ont un cœur comme nous autres les humains. Et ils ont droit au respect également, non? Mon cher Groin-Groin, bonjour, je m'appelle John. Je suis maintenant ton papa. Nous allons manger ensemble pour la première fois. Alors, t'es-tu bien lavé les papattes avant de te mettre à table, Groin-Groin? Oui? Ah, parfait. Alors, bon appétit, Groin-Groin.
Merci, John. La transition va être un petit peu difficile avec Catherine. Alors Catherine, avec votre ouvrage, nous restons dans l'histoire comme avec Simone, mais nous allons remonter dans le temps. Alors comment êtes-vous tombée, si j'ose dire, sur Élisabeth de Ranfin et pourquoi avoir eu envie de raconter sa vie?
Alors, je suis tombée sur Élisabeth de Ranfin en travaillant sur mon précédent ouvrage. Qui était donc sur Marthe Richard, qui était une Lorraine et qui s'appelait en fait Marthe Bettenfeld, connue pour avoir fermé les maisons closes, est à l'origine en tout cas de la fermeture des maisons closes en 1946. Donc cette Lorraine avait vécu à Nancy, sa jeunesse, où elle était petite couturière et elle avait fini sur le trottoir, comme beaucoup de couturières à l'époque. Et à Nancy, il y avait 11 000 militaires. Donc, elle fait le trottoir et elle attrape, comme beaucoup de filles à l'époque, la syphilis. Donc, elle va être soignée à la clinique de syphiligraphie qui était rue des Quatre Églises, aujourd'hui Bon Secours, et qu'on appelait alors le refuge. Donc, je m'intéresse pourquoi on l'appelait encore le refuge et je me rends compte que ce refuge a été créé par Elisabeth de Ronfin. Bon, je note ça dans un coin de mon esprit. Et puis, peu de temps après, je travaille un petit peu sur l'église du noviciat des Jésuites, rue Saint-Dizier, qui est un peu en ruine actuellement. Hein. Et donc, je me rends compte que dans cette église ont eu lieu, il y a 400 ans, des exorcistes. Et je me rends compte que ces exorcistes, en fait, avaient été sur une femme qui s'appelait Elisabeth de Ronfin. Je me dis, mais est-ce la même? Est-ce que c'est cette femme qui a créé le refuge, cette sœur? Est-ce que c'est elle qui a été exorcisée? Comment passe-t-on d'un exorcisme à la sainteté où on crée un couvent? Donc ça m'a interpellée et je me suis dit, bah, ça y est, je tiens le thème de mon prochain ouvrage et je me suis mis à faire des recherches. Donc je me suis rendu compte qu'à Nancy, Elisabeth de Ronfin était vraiment oubliée, à part les gens qui travaillent à Saint-Charles actuellement, puisque j'en ai rencontré beaucoup pendant le livre sur la place qui connaissaient bien Elisabeth de Ronfin, mais qu'elle était surtout connue à Remiremont, d'où elle est originaire, et que là, il y avait. Ça restait vraiment vif dans l'esprit des gens ce qu'elle avait fait. Mmh. Voilà. Donc, j'ai fait des recherches alors, à Remiremont. À Remiremont, j'ai rencontré une archiviste vraiment fantastique. J'ai pu trouver, grâce à elle, que contrairement à ce qu'elle raconte, Elisabeth de Ronfin n'était pas fille unique. Donc ça, c'est une petite découverte, parce que dans toutes ses biographies, on dit qu'elle est fille unique. Alors, des biographies qui datent de son contemporaine, hein, de son époque, ou plus tard. Et en fait, cette archiviste m'a dit, mais nous, on a un dictionnaire paroissial où un abbé a noté toutes ses recherches, puisque les extraits d'actes de naissance avaient brûlé, etc., avaient été détruits. Donc, je lui ai dit, super, j'arrive, je prends ma voiture. Et elle me dit, je vous ai mis de côté les R. Et donc, c'était 45 cm de feuillet. Alors, je lui demande, mais comment c'est classé? Elle me dit, c'est pas classé. Bon, donc les joies de la découverte. Et là, j'ouvre, mais vraiment au hasard, je tourne deux pages et mes yeux tombent sur Ronfin. Et là, je me rends compte qu'elle a eu un frère qui s'appelait Nicolas. Voilà, pour la petite anecdote. Donc, quelque part, de temps en temps, on se dit, on est un peu guidé quand on fait des recherches comme ça, parce qu'on trouve des choses. J'ai trouvé aussi des choses aux archives départementales à Nancy. On en parlera peut-être, mais il y a plein de choses comme ça qui m'ont permis d'écrire une histoire. Enfin, pas une histoire, puisque c'est vraiment sa vie, mais et de l'agrémenter, parce que, en fait, je ne voulais pas me contenter de raconter son histoire, mais je voulais vraiment la remettre dans un contexte historique et de raconter surtout l'histoire de la Lorraine, donc, on va dire, dans la première partie du XVIIe siècle. Donc, il y a plein de choses qui se passent. C'est une époque très, très riche. Oui. C'est la fin des guerres de religion, c'est l'époque de la peste, c'est la guerre de 30 ans, et puis surtout, c'est l'arrivée des Français en Lorraine, nos ennemis à l'époque. Et donc, c'est toutes ces histoires qui se mêlent à son histoire que je vais raconter. Voilà.
Alors, parlez-nous de cette femme, Elisabeth de Ronfin.
Alors, cette femme, donc, elle est issue d'une petite noblesse. J'ai d'ailleurs retrouvé la lettre d'anoblissement de son grand-père aux archives de Remiremont, lettre fantastique avec un sceau énorme, des blasons peints à la main évidemment, mais c'est assez magnifique. Et donc son père s'engage comme mercenaire Il a un peu un esprit vif, un peu bouillant. Et quand il revient de la guerre, on le marie avec une femme beaucoup plus âgée. Donc beaucoup plus âgée, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je ne le saurai jamais parce qu'il n'existe plus rien pour... Peut-être avait-elle 30 ans.
Oui, à cette époque, les femmes étaient considérées comme vieilles. Voilà. Oui.
Donc, naîtra un premier enfant, puis Élisabeth. Et Élisabeth va être élevée par sa mère dans la religion. Alors, sa mère est malade après l'accouchement, donc elle va être élevée par des servantes, puis elle va être élevée par la doyenne des chanoinesses de Remiremont, donc évidemment dans la religion.
Donc, bon, c'était assez libre quand même, les chanoinesses de Remiremont.
Alors, les chanoinesses étaient assez libres. Hein. Je donne des descriptions, parce que c'est l'époque, peu de temps avant, Montaigne est passé à Remiremont, et il décrit bien comment vivaient les chanoinesses, donc dans de belles maisons, indépendantes. Elle n'appliquait vraiment plus les règles ni les vœux. Elles allaient de temps en temps au bal et se promenaient à Paris quand elles en avaient envie. Oui. Donc, plus tard, Catherine de Lorraine essaiera de remettre de la discipline en commandant de grandes portes en chaîne pour fermer cette enclave. Et les chanoinesses, la journée et le soir, vont casser les portes en chaîne parce qu'elles n'ont pas envie d'être enfermées. Donc, mais quand même dans la religion, donc élevée dans la religion. Et très tôt, elle aspire en fait à une vie de sainteté. Elle pense se consacrer à Dieu. Hein, elle est passionnée par Dieu, voilà. Donc, elle aspire à ça, mais en même temps, déjà, des phénomènes étranges se font sentir. Hein. Elle fait un rêve assez étrange. Elle voit apparaître un monstre dans sa chambre. Bon, certains diront un cauchemar d'enfant, mais ça va la marquer profondément. Et puis, elle se sera un jour aussi au tertre à Remiremont, où elle s'amuse avec des amis. Elle s'approche du tertre, hein, qui fait à peu près 4 mètres, et elle se sentira happée et poussée par une main. Et elle va tomber du tertre et se relever sans aucune égratignure. Donc, elle aspire à devenir religieuse, mais sa famille, à un moment, bien qu'elle ait une éducation très religieuse, a besoin de la marier pour des questions financières. Donc, elle va se retrouver mariée à 15 ans.
Avec un homme beaucoup plus âgé. Mais ça...
Alors, cette fois-ci, on a l'âge, 57 ans. Donc, beaucoup plus âgé qu'elle. Ce n'est pas une première main, comme on dit. Il a déjà été marié. Il a des enfants. Une fille et deux fils qui sont moines. Et c'est le prévôt d'Arches. Hein. Donc, quelqu'un de noble aussi. Donc, elle va aller habiter à Arches. Voilà.
Et quand on voit les photos d'Arches, ça ne donne pas vraiment envie.
Non, elle habite dans le château.
Bah oui.
Son mari représente le duc. Il administre la Vosges. C'est lui aussi qui est chargé de gérer les prisons. Donc c'est sûr que le lieu n'est pas très festif. Bon, alors... Elle, rapidement, on va lui reprocher de ne pas être enceinte, assez rapidement. Et donc, elle va être obligée d'aller à Saint-Nicolas-de-Port prier. Et quand elle revient, peu de temps après, elle se retrouve enceinte. Et il va faire 6 enfants, en 6 ans, dont 3 filles survivront.
Oui. Voilà. Et puis là, elle devient veuve.
Elle devient veuve, elle retourne chez ses parents. Et là, enfin, se dit-elle, je vais pouvoir me consacrer à Dieu. Donc, elle fait vœu de chasteté, elle fait ses dévotions, et un jour, des amis lui proposent d'aller en pèlerinage au Saint-Mont. Le Saint-Mont, c'est le mont Abent qui domine Remiremont. Donc, elle s'assure qu'il n'y aura point d'homme, puisqu'elle a fait vœu de chasteté. Elle gravit le Saint-Mont, elle fait ses prières à toutes les chapelles. Et quand elle arrive à l'auberge, elle entend des voix d'hommes. Bon. Et là se trouve un homme, le docteur Charles Poirot, médecin des ducs des Lorraine et des chanoinesses, récemment anobli par le duc. Et il va couper des morceaux de petit salé, et il va lui tendre un morceau de petit salé. Et quand elle va mâcher les premières bouchées de ce petit salé, elle va se sentir toute bizarre. Bon, elle a bu un peu de vin aussi, donc elle a le visage qui rougit, le cœur qui bat, elle sent des choses bizarres dans son corps. Et il va commencer des tas de manifestations bizarres. Et la nuit, elle va rêver du docteur, donc elle pense qu'il l'a envoûtée. Donc, ce mal va amplifier, elle va se retrouver paralysée, aveugle. Bon, évidemment, on appelle le docteur, mais c'est le docteur Poirot. Donc, lui, il va diagnostiquer ce qu'on appelait le mal de mer à l'époque, de l'hystérie. Mmh. Mais elle ne va pas se contenter de ça, elle va être de plus en plus malade et elle va aller consulter à Nancy. Voilà. Et à Nancy, les médecins vont déclarer qu'elle n'est point, elle ne relève pas de la médecine, mais qu'elle est possédée par les démons. Mmh. Et là, évidemment, on va l'exorciser.
Alors, Elisabeth de Renfa était une femme qui aspirait à la sainteté. Cependant, elle était très dure envers elle-même, mais aussi envers les autres. Elle était même particulièrement violente.
Ah oui, non mais elle était dure envers elle-même parce qu'elle se châtiait, elle se mortifiait. Oui. Elle portait le cilice, elle se fouettait avec des chaînes, elle mangeait très peu, elle se privait. C'était dans le cadre de son dévouement pour Dieu.
Hein. Oui.
Et plus tard...
Il n'en demandait pas tant d'ailleurs. Peut-être.
Pardon ?
Il n'en demandait peut-être
non,
pas tant.
Non. Et plus tard, elle-même, quand elle fondera son couvent, sera très dure avec les religieuses et les filles qu'elle recueillera.
Oui.
Parce que son couvent, donc Notre-Dame du Refuge, est destiné à recueillir les filles perdues, c'est-à-dire les prostituées.
Qui étaient oubliées, oui. Voilà. Est obligée de se prostituer
qui ne sont pas toujours faciles. Voilà. Donc, elle est obligée de diriger son couvent ensuite de main de maître. Mais elle se mortifiera aussi avec d'autres sœurs. Et on raconte qu'elle avait un petit battoir qui existe toujours à Nancy, hein, dont j'ai retrouvé la photo. Et elle tapait les sœurs avec ce battoir jusqu'à ce que les murs des cellules ruissellent de sang. Donc oui, effectivement,
elle n'était
pas facile.
Voilà. C'était aussi une femme pleine de contradictions, parce que sainteté d'un côté et trahison de l'autre côté, c'est le pauvre docteur Poirot qui en a fait les frais quand même.
Oui, alors il en a fait les frais, elle l'a dénoncé. C'est-à-dire que dans un des exorcismes, elle va dire, eh bien c'est le docteur Poirot qui m'a envoûtée, mais c'est quand même les juges qui vont le condamner.
Hein, oui, bien sûr.
Parce que à l'époque, le procureur était le fils du fameux Nicolas Remy qui avait écrit un traité sur la démonolâtrie. Et donc, Nicolas Remy qui se vantait d'avoir envoyé 900 personnes au bûcher. Et ce traité-là a servi à de nombreux juges qui n'avaient pas forcément fait d'études de droit pour justifier des condamnations pour sorcellerie. C'est un manuel, en quelque sorte.
Oui, bien sûr.
Il y aura plus de 3000 personnes comme ça qui vont être condamnées à brûler sur le bûcher. Mais à l'époque, on ne les brûlait pas vivants. Hein. On les garrottait gentiment avant. Donc, ils étaient étranglés et brûlés ensuite.
Hein. Mais enfin, ils avaient été torturés avant aussi. Hein.
Oui, oui.
Il ne faut pas quand même oublier.
Donc, elle, quand elle dénonce le docteur Poirot, c'est le fils de Nicolas Remy qui est procureur, Claude Marcel Remy, et donc qui va condamner le pauvre docteur Poirot, bien que celui-ci soit défendu par plusieurs personnes des cours d'Europe. Il va être condamné parce que les Nancéens et tout le monde estiment qu'il est coupable d'avoir envoûté cette pauvre Elisabeth de Renfin.
Oui. Alors, vous mettez en lumière tous les procès en sorcellerie qui ont eu lieu en Lorraine, et plus particulièrement, en France, bien sûr, et plus particulièrement en Lorraine. Alors, vous croyez réellement qu'il y avait des hommes et des femmes possédés par le démon ? C'était pas plutôt de la schizophrénie ou un phénomène de groupe ?
Il y avait plusieurs choses. Il y a les gens des femmes qui effectivement étaient un peu hystériques, on va dire. Oui. Bon, des hommes aussi, puisque on exorcise aussi des évêques. Bon, dès que les gens ont des douleurs en fait un peu diffuses, voilà, c'est le démon. Quand on ne trouve pas une cause naturelle, on accuse le démon. C'est un peu l'époque. Et puis, il y a aussi une façon de se débarrasser des gens dont on ne veut plus. Je cite Melchior de la Vallée, je cite André Desbordes, qui n'avait pas plu au duc Charles IV, qui avait pris... vous lirez, parce que c'est un peu compliqué, raconter, mais il veut s'en débarrasser. On les accuse de sorcellerie. On les condamne, on les emprisonne, on les condamne, on les passe à la question à l'époque. Bon, évidemment, à la question, tout le monde avoue, plus ou moins. Mmh. On recherche la marque du démon. Alors, la marque du démon, c'est un endroit insensible. Donc, pour trouver cet endroit insensible, ou alors une marque, on prend une grande aiguille, on pique la personne à tous les endroits, et quand à un moment, il ne crie plus, c'est que c'est l'endroit insensible. Donc, forcément, on a tous cette marque du démon quelque part. Donc, et voilà, et on confisque les biens des personnes et on les élimine. Donc, c'est, je veux dire, certains ne sont pas dupes, ils s'en servent aussi.
Bien sûr.
Voilà. Mmh. Après, il y a aussi, à l'époque, c'est quand même une époque aussi où il va y avoir la peste, il y a quand même beaucoup de calamités. Donc, il faut un responsable, un coupable. Ben, on croit en Dieu, donc forcément, on croit au démon. Voilà. Donc, c'est le diable. Voilà.
Alors, comment expliquer les signes apparents d'une possession? Vous pouvez nous lire le spectacle offert par Elisabeth lors de la première séance d'exorcisme à Nancy, s'il vous plaît?
Oui, donc ça se passe en 1619. Donc, ça a lieu à l'église du noviciat des Jésuites, rue Saint-Dizier. Alors, méfiez-vous, parce que peut-être que certains diables qui sont sortis de son corps sont encore présents rue Saint-Dizier. Voilà, le diable au corps. Donc, la première séance d'exorcisme chez les jésuites a lieu le 23 octobre 1619. Dans sa petite maison, Elisabeth est constamment surveillée par des gens chargés de la garder. On y procède à de petits exorcismes qui n'ont pas grand-chose à voir avec les grandes cérémonies qui se déroulent à l'église du noviciat en présence du tout Nancy. C'est Monseigneur des Porcelets de Mayade qui préside. En son absence, Éric de Lorraine le remplace. Le duc Henri, les princes et les princesses de la famille ducale, les seigneurs de la cour, les magistrats, les juges y assistent. Une foule de prêtres s'y presse, ainsi que le bon peuple de Nancy. Il faut dire qu'il y a du spectacle. Elisabeth, le visage effarouché, les yeux étincelants et tournoyants, à la langue enflée, grosse, large, épaisse, jaunâtre, livide, noirâtre, tantôt d'une couleur, tantôt d'une autre, tirée et fort longue. Ses membres sont tordus et si difformes qu'ils semblent disloqués. Elle rampe sur le sol, sans ne se servir ni des pieds ni des bras, ne touchant pas terre et virevoltant comme une vipère. Ses cheveux se hérissent comme autant de serpents encadrant son visage de gorgone. Elle hurle comme les loups, gronde comme les pourceaux, mugit comme les taureaux, croasse comme les corbeaux, glapit comme les renards. Sa tête et son cou enflent tant qu'on ne peut plus la reconnaître et qu'on a l'impression qu'elle va éclater.
On a un peu l'impression d'assister quand même à une hallucination collective, non? Parce que pour les crapauds, moi j'ai un peu du mal.
Alors, manipulation, il peut avoir une manipulation aussi, parce que c'est l'époque de la réforme catholique, c'est-à-dire qu'on a besoin de retrouver des gens qui reviennent dans les églises. Donc on crée un spectacle aussi pour faire venir les gens à l'église. Bon, alors c'est possible que les jésuites qui l'exorcisent ou les capucins en rajoutent un peu, qu'elle soit plus ou moins complice. Bien qu'étant hystérique, elle peut faire des manifestations quand même d'importance. On se rappelle de Charcot avec ses hystériques. Bon, peut-être aussi, effectivement, vous avez raison, est-ce une hallucination collective? Parce que les gens s'y préparent à aller voir ce spectacle qui dure quelquefois jusqu'à 6 heures. C'est 3-4 fois par semaine et ça a duré 6 ans. Donc les gens se préparent, puisqu'à un moment, les gens viennent de France, les gens viennent d'Allemagne, d'Angleterre, le pape envoie des émissaires pour voir ça, quoi. Et elle est connue dans toute l'Europe, quoi. C'est... Donc après, voilà, chacun, moi je donne les clés et chacun se fait sa propre opinion.
Oui. Alors vous avez de l'empathie, de la tendresse pour cette femme ?
Alors, c'est un personnage complexe. Autant j'ai eu plus de tendresse dans les précédents ouvrages, autant là, je suis partagée.
Oui, moi aussi.
Parce que, bon, elle envoie quand même des gens sans remords, je pense. Hein, parce que, bon, peut-être était-elle un peu bloquée aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a dénoncé le docteur Poirot et qu'elle se rend compte qu'il va être exécuté, elle ne peut pas vraiment faire marche arrière sans elle-même se renier et risquer d'être accusée
aussi,
de sorcellerie, etc. Bon, après, j'ai l'impression qu'elle se rachète, puisqu'elle crée un ordre. Bon, il va quand même avoir une vingtaine de couvents, etc.
Enfin, moi aussi, c'est plus l'orgueil, non?
Alors, c'est de l'orgueil aussi. Et puis après, je me dis, bon, bah, elle se rachète, elle gère bien ses couvents. Et puis tout d'un coup, elle trafique.
Bah oui.
Elle trafique, elle fonde une secte.
Oui.
Alors là, bon, on se dit, bon, donc non, j'ai pas d'admiration pour elle, mais c'est quand même un personnage, quoi.
Oui, c'est un personnage. Voilà. Est-ce que vous avez entendu, là, ça vous donne envie
Non, pas vraiment.
Hein, c'est
je préfère Groingoin.
Oui, mais justement, elle mugit comme les pourceaux. Hein.
C'était le lien. C'était pas fait exprès, mais il y avait un lien. Bon, bah, merci, Catherine. Maintenant, il ne reste plus énormément de temps. Donc, si on parlait de vos projets d'écriture, Simone.
Oh là là.
Vous avez plein de projets, je vois ça.
C'est difficile de trier parce que je travaille tous les matins de toute façon depuis des années. J'ai des romans pour enfants qui sont prêts à imprimer, mais je n'ai pas le budget nécessairement pour le faire. Il faudrait que je trouve un éditeur pour ça.
Ça devient de plus en plus compliqué d'ailleurs en ce moment.
C'est compliqué, puis ça se comprend parce que bon, le prix du papier a augmenté, de l'encre, la façon aussi et tout ça. Enfin bon. Et puis là, je relis pour la 13e fois, quoi. Je travaille sur une série de 4 romans qui sont des romans policiers farcis avec des romans historiques. Donc, d'accord. Le personnage étant une journaliste qui écrit des romans historiques. Donc, on vit à la fois les aventures qui vont personnel, l'amener dans des tas de choses effrayantes à certains moments où elle va même avoir à changer de nom pour ne plus risquer sa vie. Et elle va raconter donc des histoires, une première fois avec un personnage au XIVe siècle, dans un couvent dans le Val d'Oise. Ensuite, on va suivre dans le deuxième tome Henri IV, enfin, un jeune gars qui sera parmi les amis d'Henri IV. Donc on va suivre toute la vie d'Henri IV, vraiment dans son quotidien, tout à fait, hein, jusqu'au moment terrible où Ravaillac va lui ôter la vie. Et le troisième et quatrième, avec quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est-à-dire Louis XVI, c'est-à-dire qu'il y aura toute une partie où un personnage va accompagner les proches de la Révolution. Voilà.
D'accord. Et vous, Catherine ? Vous êtes tombée sur quelqu'un d'autre qui vous passionne ?
J'ai plusieurs pistes, en fait. Bon, j'ai envie de sortir d'un seul personnage.
Oui.
Donc, j'ai une piste sur trois Lorraines qui sont devenues reines. Voilà.
D'accord.
J'en dirai pas plus. Donc, ça s'appellera Trois Lorraines, Trois Reines, je pense. J'ai déjà le titre. Après, il n'y a plus qu'à faire les recherches. j'ai aussi en projet un livre jeunesse, mais qui partirait de dessins du Moyen-Âge, en fait, qui serait intégré dans une histoire pour les enfants. Et puis, j'ai d'autres pistes. Un roman aussi qui se passerait de 1935 à 1945, que j'ai commencé. Voilà, donc, on verra.
D'accord.
On verra, je me laisse un peu porter, en fait. Et puis, quelquefois, j'avais commencé deux choses à la fois, puis tout d'un coup, il y a un qui prend l'ascendant, et voilà, ça se passe un peu comme ça.
Alors, pour nos auditeurs, vous pouvez nous donner le nom de votre blog, qu'ils puissent vous joindre ou quelque chose comme ça.
Ah, j'ai pas de blog, moi.
Vous êtes sur Facebook, quand
voilà,
même.
Je suis sur Facebook. Catherine Rouillard-Durand, sur Facebook, tout bonnement. Voilà.
Et vous, Simone?
Simone Desavelles, sur Facebook
aussi. Sur Facebook aussi, pour vous contacter. On peut vous contacter donc en message privé.
Ou par l'Académie Tonnelier aussi.
Ou par l'Académie Tonnelier, oui. Alors, merci à Simone Desavelles d'être venue nous présenter son livre « René Desavelles, un chercheur infatigable » publié en auto-édition. Merci à Catherine Rouillard-Durand, venue nous parler de son ouvrage « Elisabeth de Ranfin » publié chez Lire à l'Est, le Pythagore Édition. Merci à John Bullitt de nous avoir régalé avec la lecture de sa nouvelle « Satan bouche un groin ». Merci à Pierre qui était à la technique aujourd'hui et nous nous quittons avec « I go to sleep » des Pretenders. Au revoir à tous et à bientôt.
Au revoir.
Far away, I know you'll always be near to rise up.